avec Alliance Vita au service des plus fragiles.
Chers auditeurs, bien vieillir est maintenant un réel défi. En 2030, la population française comptera 20 millions de personnes âgées de plus de 60 ans. Le vieillissement et la perte d'autonomie nous concernent tous un jour. Toute la société doit participer à relever ce défi. Je ne sais pas si vous vous rappelez du projet de loi Grand âge et autonomie. Très attendu par les professionnels de santé de ce secteur, qui est en grande souffrance, il avait été annoncé par le président en 2018, il a été maintes fois repoussé puis abandonné. Face aux inquiétudes grandissantes, Elisabeth Borne, encore première ministre, avait en novembre dernier annoncé une grande loi de programmation financière du grand âge. Cette loi devait être présentée d'ici l'été pour être adoptée en fin d'année, mais une question se pose évidemment, le gouvernement, tout fraîchement remanié, tiendra-t-il cette promesse ? En parallèle, une proposition de loi intitulée « Bâtir la société du bien vieillir » est quant à elle sur le feu et discutée en ce moment au Parlement. Le Sénat vient de voter cette loi le 6 février dernier. Elle a trois objectifs principaux. D'une part, prévenir la perte d'autonomie avec la création d'un guichet unique dans les départements pour informer et orienter au mieux les personnes âgées dans toutes leurs démarches. Un deuxième objectif qui est de lutter contre la maltraitance avec la création d'une instance territoriale pour recueillir les signalements de maltraitance et un renforcement de contrôle des EHPAD. Et un troisième objectif vise à garantir un hébergement de qualité en privilégiant le plus possible le maintien à domicile. Des amendements ont par ailleurs été adoptés à l'issue des débats et concernent notamment la promotion de la bientraitance avec en particulier le droit des résidents ou des patients à recevoir de la visite qui a été consacrée de façon absolue, et y compris en cas de crise sanitaire. Nous avons tous en tête le drame des personnes privées de tout contact au moment de la crise Covid. Mais près de la moitié des articles issus de l'Assemblée nationale a été supprimé par le Sénat. Une commission mixte paritaire devra désormais tenter de trouver un accord afin d'adopter un texte commun aux deux assemblées. La date n'est pas encore fixée et un flou persiste donc sur le calendrier à venir et surtout sur le financement. Au cours de l'Université de la Vie qui s'est achevée récemment, nous avons eu la chance d'écouter le docteur François Bertin Hugo. Il est gériatre et travaille depuis plus de 20 ans auprès des personnes âgées. Il a également accompagné la formation et la réflexion éthique des médecins et des équipes soignantes dans ce domaine. Il nous a partagé des pistes de réflexion sur le temps de la vieillesse, comment mieux le vivre et mieux l'accompagner. Il a insisté en particulier sur un facteur à ses yeux décisif, qui est la capacité à envisager l'avenir quel que soit l'âge. Autrement dit, l'importance de se mettre en mode projet pour ne pas toujours regarder vers le passé. Mais cela suppose que l'entourage porte aussi la personne âgée dans ses projets. Il affirme que si le désir de vie est intérieur à chaque personne, il est nourri par son environnement. Pour les proches aidants, le défi est parfois de taille. Organiser le quotidien, veiller à la qualité des soins, être disponible, être patient, écouter, respecter le ressenti et les désirs de la personne. Mais voilà, tout le monde n'est pas bien préparé à cet accompagnement, pas suffisamment armé non plus, et l'épuisement, parfois la culpabilité guette ses proches aidants, souvent pleins de volonté au départ. À Vita, nous le percevons dans notre service d'écoute SOS Fin de Vie, où nombre de proches aidants appellent pour demander des conseils, mais surtout de l'écoute, de l'attention et du soutien. On estime aujourd'hui qu'il y a entre 8 et 11 millions de personnes en France qui accompagnent et protègent au quotidien un proche malade en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Être aidant peut avoir un impact sur sa santé physique et psychique, sur sa vie professionnelle, sur ses relations sociales et sur ses finances. Alors quand on est dans cette situation, pour ne pas s'épuiser et tenir bon, le docteur Hélène Rossino, qui est spécialiste des aidants, livre quelques bons tuyaux. Tout d'abord, faire juste de son mieux, c'est-à-dire se donner des priorités, faire la différence entre ce qui est urgent, ce qui peut attendre, ce qui compte vraiment, comme par exemple la qualité de la présence. se redire qu'il est utile de lutter contre la tentation du perfectionnisme qui peut générer un sentiment de culpabilité. Un deuxième point, c'est de s'appuyer sur d'autres et sur les bonnes personnes. On ne peut pas tout faire tout seul, il faut savoir humblement demander de l'aide à ses proches ou à des structures associatives, j'en reparlerai. Troisième point, elle propose de veiller à sa santé. Il ne faut pas oublier de prendre soin de soi aussi, de veiller sur son sommeil, son alimentation, son activité physique, ne pas s'astreindre à des programmes trop contraignants. Car lorsque l'aidant est épuisé, cela se répercute sur sa relation avec l'aidé. Il faut aussi savoir s'accorder du répit. Cela peut passer par l'accueil temporaire du proche aidé dans un établissement ou par l'appui d'un accompagnement à domicile. Elle insiste aussi sur l'importance d'identifier ses émotions. Beaucoup d'aidants sont en pilotage automatique, par peur de craquer s'ils s'arrêtaient ne serait-ce qu'un moment. Il faut prendre le temps d'identifier ses émotions, de les comprendre. C'est important, c'est nécessaire. Qualifier ce que l'on ressent permet de s'apaiser. Enfin, elle invite les aidants à trouver des moments de ressourcement, se ménager des temps pour faire quelque chose qui nous plaît et qui nous permet de respirer. Alors les aides, les droits et les moyens sont souvent trop méconnus dans ce domaine. Mais on peut citer par exemple l'Association française des aidants, qui milite pour la reconnaissance du rôle et de la place des aidants dans la société. Ou l'association Avec nos proches, qui agit pour rompre l'isolement et la solitude des proches aidants, en leur proposant un espace de parole libre et ouvert à tous grâce à un service d'écoute par téléphone. On peut donc devenir aidant des aidants. Mais je pense aussi à des associations qui sont plus locales, comme par exemple Maillage pour le Pays Basque ou Presse Purée sur Pau. Le fondateur de ces deux associations, Pierre de Norest, est venu témoigner lors de la dernière Université de la Vie à Bayonne. Ces associations, quelque part, soulagent les proches aidants en permettant le maintien à domicile des personnes âgées grâce au principe de la cohabitation intergénérationnelle et solidaire, ce qui permet en même temps à des étudiants ou des jeunes professionnels de pouvoir se loger. Et Maillage se fait aussi le relais de demandes plus ponctuelles de proches aidants qui ont besoin de souffler et qui aspirent de temps en temps à être relayés pour une petite sortie de façon ponctuelle ou régulière. Alors vous trouverez tous les liens vers ces sites, les sites de ces associations, à côté de cette chronique sur le site de Radio Lapourdi. Aider les aidants à mieux accompagner le grand âge, c'est vraiment un nouveau défi pour tous. Le défi de parier encore et toujours sur la vie. Merci de votre attention et à très bientôt.
Retrouvez toute l'actualité d'Alliance Vita sur le site alliancevita.org.